France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que responsables politiques et états-majors syndicaux vont encore défiler quelques jours et jusqu'au 2 mars au Salon de l'agriculture à Paris, les engrais restent peu discutés lors de ces rencontres. Ils sont pourtant au fondement de notre modèle agricole industriel et productiviste. Avec la mécanisation, la chimie fut en effet l'un des moteurs de la grande révolution agricole. Mais le recours à ces engrais vendus dans le commerce sont bien plus anciens. Ils remontent à la seconde moitié du 19e siècle, que l'on pourrait dès lors considérer comme les prémices de la première révolution agricole européenne. Des premières recherches aux premiers engrais mondialisés. Comment les agriculteurs se sont-ils saisis des engrais commerciaux pour améliorer leur rendement à l'origine de la modernisation de l'agriculture? Et comment s'est construite cette dépendance aux engrais? Pour tenter de le comprendre, un invité ce soir, Laurent Herman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui est apparu à l'automne dernier. Il est intitulé « Le cultivateur et l'engrais, une histoire de la chimisation de l'agriculture ». Cela a paru aux presses universitaires. François Rabelais, merci d'être présent ce soir dans « Question du soir ».
Je rappelle quelques chiffres. Vous prenez une baguette artisanale. 55% des émissions de gaz à effet de serre d'une baguette artisanale sont dues à l'amont agricole. Sur ces 55%, il y en a 36% qui sont dues aux intrants et aux engrais azotés. Donc on est sur un aspect majeur des émissions de gaz à effet de serre. Et donc il est important de travailler sur les intrants et notamment sur les intrants azotés.
Lorsqu'on entend Laurent Herman, Édouard Piens, hein, il est directeur de la stratégie marketing d'Invivio et il s'exprimait hier dans le cadre du Salon de l'agriculture. On mesure sans doute à quel point notre modèle agricole, notre système agricole industriel et productiviste est dépendant de ces engrais. Dites-nous justement à quel point il l'est effectivement.
Alors, il est dépendant des engrais, mais il est aussi dépendant de tout un ensemble d'intrants de diverses natures, les pesticides, le pétrole qui fait tourner les machines, les tracteurs par exemple, les moissonneuses-batteuses. Il est dépendant de l'eau aussi, c'est un véritable sujet comme on le sait. Il est dépendant aussi des engrais et enfin des semences qui sont sélectionnées, des OGM. Donc les engrais, ça s'inscrit en réalité dans un ensemble d'intrants qui sont destinés à faire fonctionner en quelque sorte l'entreprise agricole. Alors, ils sont la dépendance aux engrais, et c'est surtout actuellement aux engrais azotés, comme d'ailleurs l'a souligné l'intervenant. Les engrais phosphatés, la consommation a eu tendance à baisser depuis la fin des années 60. Peut-être qu'on y reviendra justement sur ce sujet. Mais la dépendance aux engrais, oui, elle est très importante parce qu'en fait, les semences que l'on utilise, ces semences sélectionnées, ont besoin de beaucoup d'engrais parce qu'elles sont capables d'absorber beaucoup d'engrais pour faire des récoltes très importantes. Donc, sans les engrais, mais sans aussi tout un ensemble d'intrants, les rendements seraient de toute façon beaucoup, beaucoup moins élevés.
On va venir à l'histoire, hein, puisque c'est votre domaine, mais encore une question au sujet du présent. Il y a un terme qui fait florès en ce moment, c'est celui de souveraineté alimentaire, autrement dit d'autonomie de notre système agricole. Est-ce que cela signifie qu'il faut penser l'autonomie au prisme également des engrais, de l'eau, car on a tendance à les oublier justement alors qu'on les importe très très largement, je pense là encore aux engrais azotés?
Alors, là c'est un peu plus compliqué que ça, parce que d'une part, si je peux développer un tout petit peu,
je vous en prie.
D'une part, c'est pas simplement une autonomie alimentaire. L'agriculture, elle produit aussi beaucoup de matières premières qui sont destinées à l'industrie. Beaucoup, énormément, dans le monde entier. Et en France aussi. Donc, au-delà de l'autonomie alimentaire, en ce qui concerne la France, depuis les années 70, elle est assurée. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Mais il faut aussi penser à tout ce qui est produits agricoles qui sont destinés à l'industrie. Ça, c'est vraiment extrêmement important.
Alors, venons-en justement à l'histoire. Laurent Herman, elle est au cœur de votre ouvrage intitulé « Le cultivateur et l'engrais. Je voudrais que l'on commence par la chimisation. C'est un néologisme que vous avez forgé. En quoi cette chimisation marque-t-elle en partie l'entrée dans la modernité de l'agriculture ?
Alors, le terme que j'ai employé, il y a aussi une chercheuse américaine qui l'a employé, enfin, en anglais, hein, c'est un peu différent, mais c'est à peu près la même idée. De fait, ce qui se passe, c'est que la chimie, bon, c'est la chimie, disons, entre guillemets, moderne. Je ne suis pas un historien des sciences, donc je ne veux pas, je veux pas dire de bêtises, mais la chimie moderne, c'est la chimie de Lavoisier, en gros, qui est fondée sur la connaissance des éléments. Dès le début du 19e siècle, donc dès les débuts de la chimie, on commence à s'interroger sur ce que les plantes contiennent. Pendant 40 ans, disons les scientifiques qui travaillent très très sérieusement ne vont pas comprendre exactement que en fait il y a quelques éléments beaucoup plus importants que les autres, le phosphate, l'azote, la potasse, le magnésium, etc. Donc, ces éléments, ils vont être identifiés vers le milieu du 19e siècle, entre 1840 et 1950. On commence à avoir de réelles certitudes là-dessus. À la suite des travaux de Liebig, de Boussingault, de Gilbert Ellos en Angleterre, et Liebig c'est en Allemagne. Donc à ce moment-là, naît en quelque sorte ce qu'on appelle la chimie de l'agriculture. Et cette chimie de l'agriculture, elle est fondée sur l'idée que les plantes, en fait, ont besoin d'un certain nombre d'éléments, azote, phosphore et potasse en particulier, hein, mais d'autres aussi, mais ces trois-là en particulier. Et donc, on va commencer à interpréter la croissance des plantes comme cette capacité à capter dans le sol ces éléments qui composent en réalité les engrais. Voilà. Donc, c'est là que se noue un peu cette idée de chimisation de l'agriculture.
En quoi est-ce que l'emploi d'intrants exogènes à une exploitation, l'emploi d'intrants, j'allais dire, qui viennent de l'extérieur d'une parcelle agricole, marque là aussi, à la fin du 19e siècle, une rupture importante dans l'histoire du modèle agricole français ?
Alors, disons en gros, même si c'est très schématique, l'agriculture, jusque dans les années, 1860, c'est une agriculture cyclique, c'est-à-dire qu'en fait, la quasi-totalité des intrants, que ça soit les fumiers en particulier, mais que ça soit aussi la force de traction des animaux, est produite au sein de l'exploitation. En fait, c'est ce qu'on appelle un cycle. Il y a ce cycle agricole qui peut être annuel ou bisannuel ou trisannuel, mais en tout cas, il y a ce cycle agricole qui fait que en réalité, l'exploitation produit quasiment tout ce dont elle a besoin pour continuer à être une exploitation agricole viable. Bien, mais pas le faire. Enfin, il y a des tas de choses qu'elle ne produit pas, mais ces intrants-là, elle les produit en interne. À partir de 1860, il y a un certain nombre d'exploitations, même un peu plus tôt en fait, en réalité, il y a un certain nombre d'exploitations qui commencent à acheter des intrants, que sont les engrais, à l'extérieur de l'exploitation, et qui sont, que moi j'appelle, des engrais du commerce pour ne pas faire de distinguo entre engrais organiques, engrais chimiques, engrais de synthèse, etc. Mais donc voilà, là, c'est là que se joue en quelque sorte un basculement. Mais c'est un basculement qui est très très progressif en réalité. Jusqu'en 1940 ou 45, voire 60, il y a encore une grande partie des exploitations qui fonctionnent au moins partiellement sur le modèle cyclique.
Et pourtant, je voudrais revenir sur une période précise hein, sur laquelle vous travaillez, la période 1880-1914. Vous expliquez bien qu'au cours de cette période, durant ces différentes décennies, on observe une envolée des volumes d'engrais commerciaux utilisés dans l'agriculture française et européenne. Comment est-ce qu'on explique justement cette envolée ? Quels en sont les motifs premiers et principaux ?
Alors, Dès le début, dès le milieu du 19e siècle, l'idée d'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire d'une agriculture qui va avoir un cycle de production linéaire et non plus complètement cyclique, émerge. Il y a par exemple un écrit d'un professeur au conservatoire qui dit il faut que ça soit une entreprise comme les autres, une industrie comme les autres, c'est-à-dire qui achète pour produire, et qui va restituer plus de produits parce que précisément elle achète des intrants extérieurs. Voilà, ça c'est le premier élément. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler votre question?
Ma question c'était sur la période 1880-1914, comment se fait-il qu'on observe cette envolée impressionnante, importante des volumes d'engrais commerciaux qui sont vendus?
Ça tient au fait qu'il y a des industriels qui ont bien compris que c'était un filon extraordinaire. Ça tient au fait que les scientifiques se mobilisent, comme ça a été très bien montré par Nathalie Jasse. Ça tient au fait que, contrairement à l'idée reçue, la politique agricole de la France et des autres pays aussi n'est pas simplement une politique protectionniste. Et ça tient enfin au fait que les agriculteurs sont réceptifs. Ils sont d'autant plus réceptifs à ces nouveaux engrais que dès les années 1820, 1830, 1840, ils utilisent déjà les engrais du commerce et ils les utilisent intelligemment. Ce qui va changer à partir de 1880, c'est que les agriculteurs, les élites scientifiques, commerciales, politiques et syndicales vont tenter d'acculturer les agriculteurs à cette nouvelle chimie pour précisément parvenir à vendre ces engrais. Alors, c'est pas simplement parce qu'ils veulent vendre, c'est aussi parce qu'il y a un vrai projet politique d'industrialisation de l'agriculture et d'accroissement des rendements.
Cette acculturation que vous décrivez, Laurent Hermant, est-ce qu'elle se fait avec l'aval, avec l'accord des paysans, ou est-ce qu'elle se fait contre eux et d'une manière un peu forcée?
Alors, là-dessus, il y a deux thèses. Moi, je serais plutôt pour une thèse de l'acculturation qui est bien accueillie. Qui est bien accueillie parce que, en fait, les paysans, fondamentalement, ils sont pas dépossédés d'un savoir qui est leur véritable savoir, qui est la connaissance de leur terroir et de leur parcelle. C'est-à-dire, ils savent que telle parcelle, on peut avoir tel type d'assolement. L'assolement, c'est la succession des cultures, tous les 3 ans, tous les 2 ans, tous les 6 ans. Sur telle ou telle autre parcelle, on va faire d'autres cultures parce qu'ils connaissent leur terroir. Ils connaissent les vertus, en quelque sorte, de chacune de leurs parcelles. Et c'est pas une connaissance simplement individuelle, c'est une connaissance collective. C'est-à-dire que tout le monde sait que telle parcelle est propice. Voilà.
Je voudrais vous faire entendre une
À partir de là...
Pardon, je vous en prie.
À partir de là... Moi, je pense que quand les élites, par le biais du syndicat agricole, par le biais des syndicats agricoles, vont apporter ce que j'ai appelé une nouvelle grammaire ou un nouveau langage pour comprendre comment utiliser les engrais, pour expliquer ce que sont les engrais, c'est un langage qui va parler aux agriculteurs. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que c'est pas une déqualification, comme certains l'ont dit, mais bien une acculturation à ce que j'appelle la chimie des engrais.
Quel rôle joue, vous l'avez déjà rapidement évoqué, quel rôle joue dans cette acculturation les élites agricoles, scientifiques, les élites aussi politiques? Elles jouent des rôles différents.
Alors, elles jouent des rôles différents, mais elles ont toutes un même objectif. C'est-à-dire que les élites... Alors, un élément extrêmement important, c'est les syndicats. Parce que dans ces syndicats vont se retrouver l'ensemble de ces élites. Élites politiques qui ont un véritable projet d'industrialisation et d'accroissement de la production agricole. Élites scientifiques qui ont bien sûr, comme l'a expliqué Nathalie Jasse, des ambitions qui sont leurs ambitions propres. C'est-à-dire, ils veulent être reconnus, ils veulent avoir des postes. Donc, eux, ils vont pousser eux aussi et ils vont, dans une certaine mesure... participer à la création des syndicats, en particulier les élites intermédiaires, les élites scientifiques intermédiaires. Et on a donc dans ces syndicats, en plus des industriels, les élites industrielles, alors la firme la plus célèbre, c'est Saint-Gobain, qui est le plus grand producteur de superphosphate à la veille de la guerre 14, le plus grand producteur mondial de superphosphate à la veille de la guerre de 1914. Toutes ces élites, en fait,
autour du syndicat, elles vont s'organiser pour arriver à, en quelque sorte, chacun ayant un rôle spécifique, les uns apportant leur science, les autres apportant leur volonté politique, les derniers apportant leur produit, vont parvenir en quelque sorte à imposer cette nouvelle grammaire à la paysannerie, mais ils vont l'imposer d'autant plus facilement que la paysannerie est extrêmement réceptive. Ça, c'est en fait la thèse que j'ai voulu présenter.
Je voudrais, Laurent Herman, vous faire entendre une archive. Elle date de 1957 et elle nous fait entendre l'importance de l'azote dans la panoplie des engrais.
En même temps que les bouches à nourrir devenaient plus nombreuses, les techniques de culture se sont naturellement perfectionnées, obligeant les rares terres cultivables qui existent entre les océans, les déserts et les montagnes à augmenter considérablement leur rendement. Mais la terre donne le meilleur d'elle-même avec chaque récolte et s'épuise. Périodiquement, il faut lui réinsuffler en quelque sorte la substance nourricière qu'elle a perdue en lui fournissant des engrais en quantité croissante. L'enrichissement des sols par la culture et l'enfouissement des légumineuses, comme la luzerne, aboutit au même résultat, mais les terres cultivées ont aujourd'hui des besoins d'azote tels que le monde a dû créer d'immenses complexes industriels spécialisés dans la fabrication d'engrais azotés artificiels.
Comment l'azote, Laurent Herman, va-t-il peu à peu remplacer tout ou au moins une grande partie des autres engrais ?
Alors non, ça je pense qu'on peut pas, on peut pas dire ça. Enfin,
alors dites-moi, je vous en prie.
L'azote c'est un des engrais. Les engrais phosphatés sont extrêmement importants, les engrais potassiques aussi, d'autres éléments sont importants aussi, mais l'azote c'est un problème spécifique parce que en fait, c'est effectivement ce qui va permettre de booster les rendements. Mais les autres aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, c'est une des deux lois de Liebig qui dit qu'en fait, on ne peut pas utiliser beaucoup d'un engrais et trop peu d'un autre, parce que de toute façon, la plante, elle va se caler sur le trop peu, elle va pas se caler sur le plus. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre les engrais. Le rôle de l'azote, c'est aussi parce que en fait, on est passé d'un monde d'azote très rare, d'engrais azotés très rares, jusqu'en 1908, enfin. Surtout après la Première Guerre mondiale, on pourra revenir dessus si vous voulez, à un monde où l'azote disponible dans les engrais est très important. En fait, ça tient au fait que, comme l'a dit d'ailleurs l'intervenant dans l'archive, il y a que les légumineuses, en gros, qui peuvent capter l'azote atmosphérique. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein d'azote, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que très peu de plantes sont capables de l'assimiler directement, l'azote de l'air. Donc, jusqu'en 1908, pour donner une date un peu artificielle, 1908-1913, les seules sources d'azote qu'on a, c'est le fumier, en premier lieu, les légumineuses, comme l'a dit l'intervenant, mais c'est vrai que c'est très important, les légumineuses, même encore maintenant, hein, et les lisiers sont toujours très importants. Mais si on veut augmenter les rendements, il faut un apport supplémentaire. Et les premiers apports supplémentaires, c'est pas très compliqué. Il y en a en gros deux qui sont importants, le guano et le nitrate de soude. Et en dehors de ça, on n'a pas grand-chose. Et c'est pas renouvelable. C'est-à-dire que même si on peut penser qu'on aurait trouvé d'autres sources de guano, c'était pas énorme. Quant au nitrate de soude, il y a qu'un seul pays qui en a. En gros, c'est le Chili. Et les réserves sont limitées. Donc, en 1900, on est encore dans un monde de rareté, tout le monde s'affole, il faut absolument trouver le moyen pour continuer à nourrir la population. Alors, c'est toujours le même discours, hein, pour continuer à nourrir la population. Alors, en plus, s'ajoute à cela des considérations racistes, hein, parce que c'est vraiment la race blanche qui doit faire ça et pour préserver son hégémonie et sa supériorité. Donc, en 1900, tout le monde s'affole et il faut trouver des moyens de multiplier en quelque sorte. En quelque sorte, les engrais azotés. Alors, il y aura plusieurs procédés qui sont mis au point. C'est finalement le procédé Haber-Bosch qui est mis au point par un chimiste allemand et un ingénieur allemand qui va s'avérer le plus efficace et qui va être d'autant plus important que, peut-être le savez-vous, mais non seulement il faut de l'azote pour produire des engrais, mais il faut aussi de l'azote et beaucoup pour produire des explosifs. Alors, autant vous dire que l'Allemagne était assez contente en quelque sorte d'avoir trouvé ce procédé que les autres n'avaient pas pour produire des explosifs. Voilà.
Pourquoi disiez-vous, Laurent Herrmann, un peu plus tôt dans cette discussion, que la distinction entre engrais organique et engrais chimique n'était pas si claire qu'on pourrait le penser a priori ?
Ah ben parce que en fait, si je prends l'exemple du guano, alors c'est, je l'ai développé dans mon ouvrage, si je prends l'exemple du guano, le guano c'est un engrais qui est très versatile. Parfois il a beaucoup d'azote, parfois il a beaucoup de phosphate. Et donc le problème c'est que quand on achète du guano, on achète un guano spécifique, soit du phosphate, soit de l'azote. Et à partir de là, cet engrais qui est un engrais organique, si on s'en tient à une définition standard, cet engrais organique, pour qu'il devienne vraiment engrais, c'est-à-dire pour qu'il devienne vraiment engrais, qu'il soit commercialisable, il faut définir a priori sa composition chimique. Tant qu'on ne connaît pas sa composition chimique, on ne sait pas à quoi il peut servir. Est-ce qu'il va servir pour produire telle céréale, ou plutôt telle autre, ou plutôt tel autre produit. Donc, il faut, en quelque sorte, se défaire de l'idée que les engrais, ils sont organiques, minéraux, chimiques, de synthèse, parce qu'à un moment donné, ils sont tous chimiques. Et le guano, qui est typiquement le grand engrais commercial d'origine organique au XIXe siècle, va devenir justement, parce que c'est un engrais dont la composition est inconstante, un engrais chimique, parce que les marchands vont être obligés de dire « bon ben voilà, ce guano, il contient 15% d'azote, celui-là, il contient beaucoup plus de phosphate et très peu d'azote, etc. » Et donc, dès les années 1870 et avec la loi de 1889, ça devient obligatoire, les marchands d'engrais sont obligés de préciser quelle est la composition chimique de leur engrais, qu'il soit d'origine organique, minérale, de synthèse, peu importe, il faut définir.
En quelques mots, Laurent Herrmann, en quoi le recours aux engrais a un impact aussi sur la séparation entre élevage et plantation, la séparation territoriale entre les deux ?
Ah ben, ça c'est... Alors, j'ai commencé au début par expliquer l'aspect cyclique des exploitations agricoles jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, et encore dans certains pays, ça, c'est encore le cas. De fait, pour que ce cycle fonctionne et pour que les fertilisants soient produits à la ferme, il faut des animaux qui convertissent la paille, les fourrages, les grains en engrais, justement, en fertilisant, en matière fertilisante. À partir du moment où on a la possibilité d'acheter des engrais très concentrés, de surcroît, beaucoup plus concentrés que les engrais produits à la ferme sur le marché, on peut très bien diminuer, en quelque sorte, l'importance des animaux dans ce cycle de production. Est-ce que je... Allô ?
Oui, j'entends, c'est parfaitement clair, on vous écoute.
Voilà, donc on peut à ce moment-là complètement séparer l'élevage de l'agriculture. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. Même encore maintenant, il y a encore des exploitations qui produisent leur propre fourrage, mais on peut imaginer de produire du lait avec des vaches qui seront sur l'eau, si on veut.
En 30 secondes, Laurent Herrmann, car c'est malheureusement le temps qu'il nous reste avant la fin de cette partie, quand est-ce que l'impact des engrais sur la santé et l'environnement commence à être reconnu et identifié par la science ?
Alors, sur la santé, très rapidement, oui. On sait qu'il faut les manipuler avec précaution. Parce que ils peuvent être dangereux, en particulier avec les contacts par la peau, avec les blessures, etc. Dans certains cas aussi, je pense que, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là. Hein. Dans certains cas, je pense que l'inhalation des engrais peut aussi poser problème. Pour l'environnement, Alors ça, on le sait très vite, hein, en ce qui concerne les problèmes de... Enfin, on le sait très vite. On identifie des problèmes de santé évidents très vite. Pour l'environnement, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent parce que pendant très longtemps, les quantités d'engrais qui vont être utilisées ne sont pas si importantes que ça. Même si on se pose toujours des questions. Hein, certains scientifiques peuvent se poser des questions. Mais globalement, c'est quand les quantités d'engrais... vont être très importantes et qu'une partie des engrais ne seront plus assimilés par les plantes et vont se déverser dans les cours d'eau, que là, effectivement, mais c'est plus tard en réalité, que là va se poser les problèmes, qu'on va vraiment commencer à se questionner sur les problèmes environnementaux.
Merci beaucoup, Laurent Herman. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le cultivateur et l'engrais, une histoire de la chimisation de l'agriculture. C'est aux presses universitaires. François Rabelais, merci d'être venu ce soir dans Question du soir.